Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Fenêtre sur Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Bonsoir Lomé, amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir et bienvenue au programme panafricain de Radio Canal K en Suisse alémanique. Et vous qui nous suivez en rediffusion sur notre radio partenaire Légende FM à Lomé au Togo et sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne, merci de nous être fidèles. Nous consacrons toute l'édition de ce soir à l'actualité politique-sociale du Togo. Les Togolais qui se retrouvent donc dans une incertitude totale à un mois des élections législatives annoncées par le gouvernement et contestées par la grande majorité de l'opposition togolaise. En réalité, dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, la tension sociale et politique a monté d'un cran. Nous accueillerons les avis de nos auditeurs de la diaspora togolaise et également avec nos invités, entre autres, Dr. Atou Kouassi et Gaëtan Gbati-Zoumaro depuis l'Angleterre, également depuis la Hollande. Dans un instant, notre éditorial. Nous allons également aborder ces sujets avec nos amis, nos auditeurs, nos compatriotes qui ont fait le déplacement ici même dans ce studio de Radio Canal K que je remercie. Je vais les présenter dans un moment. Élections, contestations, répression policière et le cycle infernal continue. Au Togo, quand on parle d'élections, le citoyen a peur. Il a peur parce qu'il sait que le sang va encore couler sur la terre de nos aïeux. Le Togolais devient peureux parce qu'il sait qu'il doit se préparer à quitter sa localité pour fuir les atrocités qui surviendront juste après ces élections. C'est malheureusement la situation au Togo. Malgré le climat sociopolitique très malsain, et pendant que deux regroupements politiques et sociétés civiles demandent un dialogue franc, sincère et inclusif, avant la participation de toute élection, le pouvoir togolais ne l'entend pas de ce point et demande aux Togolais d'aller voter le mois de juillet prochain. Communément, les élections sont définies comme une procédure qui permet aux membres d'une organisation ou d'une communauté de choisir ses représentants qui occuperont des positions d'autorité dans cette organisation ou au sein de cette communauté pour sauvegarder les intérêts. Mais au Togo, les élections législatives à venir se dérouleront dans un contexte particulier. À moins que les choses ne changent d'ici là. Le président du MRC, Mouvement des républicains centristes, Abbas Kaboua, le commandant Olivier Hamant, ainsi que les principaux responsables du collectif Sauvons le Togo, sont toujours incarcérés dans l'affaire des incendies des marchés. Certains responsables sont interdits de sortir de Lomé et ont reçu des menaces d'arrestation. La plupart de ces responsables sont inculpés dans l'affaire des incendies des marchés. Les populations togolaises vivent dans l'angoisse des exactions et des violations des droits humains au quotidien et qui se poursuivent et qui malheureusement ne s'arrêtent pas. La liberté d'expression devient difficile à exercer et par les partis politiques de l'opposition et par la presse privée dite proche de l'opposition. Et en plus de cela, les préalables en vue des élections législatives apaisées et véritablement démocratiques que sont la recomposition de la CENI, le redécoupage électoral, la liste électorale, la sécurité ainsi que le financement des partis politiques ne semblent pas être pris en compte par le tandem fort JCRIS et la CENI. Eh bien, C'est dans cette vive tension politique que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, vient d'ouvrir le boulevard à la candidature des dépôts sur fond de polémique. Faut-il, dans ces conditions, aller aux élections législatives prévues pour le mois de juillet 2013 prochain, tout en sachant que le but de ces élections est de doter le pays d'une Assemblée nationale qui fonctionnerait comme une chambre d'enregistrement des projets, des lois conçues par les parrains RPT, UNI, FCCCP, afin de changer la constitution et mener le pays à volo? Dans les cas du participationnisme ou non, quelle est la solution de rechange? De quels moyens de contrainte dispose le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel pour faire plonger la balance de leur côté? Quels sont aujourd'hui les moyens pouvant agir sur la pesanteur pour changer positivement ou négativement le cours des choses? Beaucoup d'interrogations qui méritent tant de réflexion à un mois de ces élections législatives au Togo. Eh bien, nous n'oublions pas, la politique, c'est une logique de rapport de force, soit par les armes, soit par la pression de la rue. D'ores et déjà, la coalition Arc-en-Ciel et le collectif Sauvons le Togo a donné leur son de cloche. Ces deux regroupements, politique et société civile, refusent de présenter de candidats, mais ne veulent pas boycotter ce scrutin. Simple jeu de mots ou stratégie diplomatique, les Togolais veulent le savoir. Eh bien, ces deux regroupements posent comme préalable dialogue, connaître le cours de la caution et élargissement des détenus politiques, etc. Chers amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, notons que les avis sont divergents quand on parle des élections législatives au Togo. Toutefois, en fonction du contexte décrit plus haut, l'enjeu de ces élections législatives à venir est bien plus important que le simple renouvellement des sièges de députés. C'est tout simplement la démocratie qui est en jeu et l'avenir du Togo. Dès lors, il n'y a aucune garantie de transparence et de liberté dans le scrutin à venir. L'esprit de velléité du boycott se réveille avec des argumentations diverses. Et comme des argumentations non des moindres, le boycott en 2007 des élections législatives, par exemple au Sénégal, a permis de crédibiliser l'opposition auprès des Sénégalais et de la communauté internationale sur sa volonté de renforcer la pratique démocratique dans ce pays. Et au Niger, par exemple, en 2009, le boycott des élections législatives par l'opposition a accéléré la chute du régime jusqu'au boutiste de Mamadou Tandja. Mais attention, attention, le Togo n'est ni le Sénégal, ni le Niger. Le Togo est un pays de paradoxe où, au nom de la force des armes, tout peut se faire et se régler en un demi-temps. Encore en ce moment difficile, à l'approche des élections législatives, les Togolais nerveux, inquiets et angoissés se demandent encore à quelle sauce ils seront dans les mois, les semaines et les jours à venir, à quelle sauce ils seront mangés. Amis auditeurs, n'allez pas loin vous poser la question de savoir s'il n'existe pas une communauté internationale. Nous dirons oui. Nous dirons tout simplement oui. Mais, pour le moment, cette communauté internationale attend. Et oui, elle attend que les Togolais tombent dans le piège de la violence inouïe pour jouer aux pompiers. Les Togolais doivent apprendre à compter sur eux-mêmes, sans se laisser manipuler par les politiques et en mettant l'intérêt de la nation au devant de la lutte, chaque Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sait pertinemment ce qu'il doit faire en ce moment précis. Car aucune force, aucune armée ne sera venir à bout d'un peuple déterminé, a dit Salvador Allende, homme politicien chilien. Que Dieu protège le Togo. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, sur Radio Canal K, également sur Légende FM à Lomé et sur la VRA, la voix de la résistance africaine, basée en Allemagne.
Les élections arrivent encore. À quoi ben y'a Baba Tumier?
Élection n'est pas synonyme de violence. Élection, c'est élire un dirigeant dans toute tranquillité. Mais au Togo, c'est pas le cas. À chanter, Amen Jassissé. Vous êtes dans cette émission, Fenêtre sur l'Afrique. Jassissé a tout résumé. Nous allons prendre dans un instant notre correspondant Fabi Kouassi Alomé pour le briefing sur l'actualité politique au Togo.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Fabi Kouassi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir, bonsoir tout le monde.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé au moment où nous enregistrons cette émission. Et Fabi Kouassi, quelles sont les nouvelles du pays avec un accent particulier sur les négociations entre la synergie des travailleurs et le pouvoir en place, Fabi Kouassi?
Exactement, la synergie des travailleurs du Togo STT et le gouvernement en discussion depuis plus d'un mois ont du mal à s'entendre depuis que les travailleurs ont durci le ton face au duperie du gouvernement appelant à une nouvelle grève de 72 heures, un débrayage qui coïncide avec la période des examens de fin d'année dans le secteur de l'éducation. Les autorités le font au trip donc ont ouvert rapidement les discussions cette semaine, mais déclarent par le biais du ministre Nick Lebrun de l'enseignement supérieur qui pilote cette discussion à qui veut l'entendre qu'un accord sera signé et la contestation va baisser d'un cran. Depuis trois jours donc, la fumée blanche tarde à sortir de ces négociations malgré les nuits blanches de dialogue. Les fonctionnaires togolais ne cessent de dénoncer la duplicité, le dilatoire dont fait montre le gouvernement qui use de subterfuges pour dribbler les syndicalistes à chaque fois que des questions financières sont évoquées. Mais c'est sans compter avec la détermination de la coordination de la synergie menée par une convaincue, Madame Nadoulosson, épaulée par les docteurs Achiwala et Gilbert Chalignano. Ce jeudi, au sortir de l'Assemblée générale, pour faire le point des discussions, c'est avec la pression des autres travailleurs à bout de nerfs et qui ont investi le ministère de l'enseignement supérieur cadre des discussions que les travaux se sont poursuivis. Sur les 8 points sylvains de la plateforme revendicative de la synergie, rien à se mettre en réalité sous la dent. Les gros points qui concernent la grille indiciaire, les primes de départ à la retraite et autres seront abordés dans quelques heures donc des points sur lesquels le ministre Brome et ses collègues étalent la mauvaise foi du pouvoir en place. En réalité, le gouvernement togolais semble décidé à ne pas offrir aux fonctionnaires de meilleures conditions de vie et de travail. La tension est plutôt électrique, ça suffit, la comédie a trop duré à lâcher cet enseignant dépassé par l'irresponsabilité des gouvernants. La situation du travailleur togolais n'a pas bougé d'un iota depuis plus de 30 ans et la synergie compte aller jusqu'au bout pour arracher des conditions dignes aux fonctionnaires. L'État togolais peut doubler les salaires, il suffit de rationaliser la gestion des ressources du pays, affirme le docteur Gilbert Chalignano, porte-parole de la synergie. Pour la petite histoire, le salaire des députés depuis 1994, année de la dévaluation du franc CFA, a connu une augmentation de 120%, suivi des ministres 110%. Les travailleurs sont donc en droit de réclamer une augmentation de salaire. Par ailleurs, ceux qui sont sceptiques par rapport à ces discussions le sont sans doute à raison, quand on sait que selon les indiscrétions, lors de la rencontre entre le chef de l'État et certains fonctionnaires de CARA, il y a quelques jours, tout en les invitant à éviter une année blanche aux élèves, il a laissé entendre que l'État togolais ne peut satisfaire les 8 points revendicatifs, même si un accord venait à être signé, ce qui augure déjà une accentuation de la crise sociale dans les semaines à venir, car même si un accord est signé aujourd'hui avec la synergie, il ne sera pas respecté conformément aux habitudes de la maison de signer des accords et de s'asseoir là-dessus. Autre front non négligeable, les étudiants viennent d'annoncer les couleurs en cette fin de semaine, appelant à une grève en vue d'obtenir satisfaction totale de leurs revendications. Le front social déjà en ébullition n'est pas prêt de s'éteindre, sans oublier le front politique, car le collectif Sauvons le Togo et la coalition arc-en-ciel ont décidé de marcher sur la justice de Lomé ce vendredi pour réclamer entre autres la libération d'Abbas Kaboua et d'Olivier Amartou, les autres détenus en Bassée, innocemment dans le dossier tordu des incendies, et l'ouverture d'un dialogue avant toute compétition électorale. Et comme il fallait s'y attendre, la répression est au rendez-vous avec bastonnades, arrestations et pneus brûlés.
Fabi Kouassi, merci pour le briefing sur l'actualité politique de Togo. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio.
Eh bien, à l'approche des élections législatives au Togo, les Togolais sont inquiets et se retrouvent dans un flou total. L'opposition participera-t-elle à ces élections? Explication dans un instant avec notre invité Agbome Kodjo.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Agbome Kodjo, bonsoir.
Oui, bonsoir, Amos.
Merci de nous accompagner depuis Lomé. Vous êtes le président de OBU, Organisation pour Parti dans l'Union, un Togo solidaire. Votre parti également membre du collectif Sauvons le Togo. Alors, le collectif Sauvons le Togo et la coalition arc-en-ciel affirment ne pas déposer de liste de candidats pour les prochaines élections législatives. Et vous dites également que vous ne boycottez pas non plus ces élections législatives. Alors, simple jeu de mots ou une stratégie diplomatique. Alors, Agbome Kodjo, pouvez-vous lever rapidement à nos auditeurs l'ambiguïté sur ces propos, Agbome Kodjo?
Non, vous savez, le Togo quand même fait partie de la communauté internationale. On parle aujourd'hui de village planétaire. Nous traversons une crise structurelle depuis des années. La crise s'est amplifiée donc ces derniers mois par l'ébullition de plusieurs fronts sociaux. Toutes les tentatives de dialogue donc entre le pouvoir et l'opposition pour corriger les dysfonctionnements des scrutins donc derniers n'ont pas marché parce que le pouvoir fait de la fuite en avant, joue dans le dilatoire. Et puis donc pour les prochains scrutins législatifs donc annoncés, eh bien l'Union européenne, la CEDEAO ont exhorté tous les acteurs politiques à engager un dialogue constructif pour corriger les dysfonctionnements, faire les réformes en vue des élections législatives apaisées. Nous ne voyons pas comment tous ces chantiers-là resterait en suspens et la CENI, de manière illégale, va inviter donc les acteurs politiques à venir déposer leur dossier de candidature. Quand on sait que le montant de la caution même à payer n'a pas encore été déterminé, donc par le Conseil des ministres, sans oublier que le fichier électoral n'est pas encore, du moins, mais apuré, et pour que nous puissions donc savoir quels sont les nombres donc des électeurs, nous ne connaissons pas cela. Donc c'est tout cela qui nous amène à dire que Faure et sa CENI là ne peuvent en aucun cas engager une nouvelle épreuve de force.
Justement.
C'est pour ça que nous disons, nous n'allons pas cautionner une imposture, nous n'allons pas cautionner une forfaiture. Nous sommes décidés à aller aux élections, mais si on veut bâtir du moins la démocratie, on la bâtit du moins avec des règles, du moins admises par tous. Eux-mêmes sont là en train de violer de toute façon le code électoral qu'ils ont tripatouillé du moins à plusieurs reprises et dont on cherche aujourd'hui les exemplaires et on ne trouve pas non sur le marché ou dans les lieux administratifs du moins qu'ils sont censés nous les procurer.
Agbome Kodjo, selon vous, le délai fixé par la CENI est illégal, hein? Le montant de la caution n'est pas aussi connu, vous venez également de le relever. Alors si le montant était connu, iriez-vous quand même à ces élections dans ces conditions actuelles, Agbome Kodjo?
Non, je vais vous dire, nous avons des problèmes liés à la transparence électorale. Nous avons des problèmes liés également au code électoral. Comment, Amos, vous pouvez expliquer aux démocrates européens aujourd'hui qu'en 2007, le peuple a donné la majorité des suffrages à l'opposition réunie? 1 200 000 suffrages ont été exprimés sur l'ensemble des partis politiques donc de l'opposition. 1 200 000 contre 900 000 pour le RPT. Mais au final, le RPT a eu 50 députés et l'opposition a eu 31 députés. La démocratie, on dit que c'est la loi de la majorité. Si la démocratie est la loi de la majorité, nous ne pouvons pas participer donc à un scrutin qui fait que la majorité au final devient minorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de s'asseoir autour d'une même table. Ça peut durer 48 heures ou 72 heures pour que nous puissions nous entendre sur les règles du jeu, que nous puissions participer donc à ces élections de manière transparente avec ce que le peuple souverain aura décidé, aura désigné comme ses représentants à l'Assemblée nationale, soit effectivement ceux-là qui iront siéger dans l'hémicycle. Vous souvenez-vous? En 2010, on avait du moins le VSAT qui devait faire une transmission automatique donc, des résultats. Quand donc le VSAT a commencé par débiter donc, les résultats et que le pouvoir en place a constaté que les résultats lui sont défavorables, qu'est-ce qu'il a fait? On a dit du moins que le VSAT est tombé en panne. Nous, j'ai échangé avec des diplomates qui disent « Ah, s'ils répètent ça encore cette année, on va faire... » Non, on veut se munir de garanties avant d'y aller. Moi, je peux vous dire, s'il y a aujourd'hui une corporation encore qui est encore aux ordres de fonds, si c'est encore à pied, sinon, de l'omer, du moins à s'incasser, comme du moins à flaou, du moins à un erreur, je crois que majoritairement, très majoritairement, les Togolais disent que 50 ans là, ça suffit, parce que de toute façon, le Togo n'est pas.
Donc, merci.
C'est pas une dynastie, et que même si c'est un roi une dynastie, il faut que du moins, celui qui est roi, ou celui qui de toute façon succède à son père, il faut qu'il soit à la hauteur de sa mission. Moi, je dis que de toute façon, Faure n'est pas à la hauteur de sa mission. Dans quel pays on est, et que donc, des problèmes se posent, mais au niveau des enseignants, au niveau du personnel de santé, au niveau des étudiants, le chef de l'État ne dit rien. Est-ce un mépris? Est-ce un mépris? Ou est-ce de l'incompétence? Je crois quand même que les Togolais ont eu le temps de juger du moins Faure. Faure a réhabilité le général Nelson Mandela. Il a réhabilité par son incompétence et par sa forfaiture. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, tout le monde, je dis unanimement, les gens s'ils pouvaient aller réveiller Yadema pour qu'il vienne continuer, au moins lui, il avait l'autorité. Les gens avaient peur de lui et il a eu cette vision. Mais maintenant, s'il y a eu des manquements de toute façon sur sa gestion, c'est lié à plusieurs facteurs. Mais je dis donc, il faut réhabiliter son père.
Merci à Agbome Kodjo de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. TogoCity.com
icilomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Évidemment, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Le Togo va mal et ça fait mal également à beaucoup de Togolais de l'étranger. La semaine passée, nous avons reçu beaucoup d'appels des Togolais qui veulent réagir par rapport à la situation dégradante, situation sociopolitique dégradante du pays. Alors, nous avons quand même réussi cette fois-ci à recueillir quelques réactions des Togolais de la diaspora. Je vous propose de les écouter.
Oui, Lucien Kali depuis Londres. J'ai réagi à propos de la situation politique. Amos, il faut comprendre que la CENI va de provocation en provocation. Cette commission électorale nationale indépendante, dirigée par Madame Aguiga, ne cesse d'étonner l'opinion nationale en ses sorties intempestives. Cette nouvelle sortie de la CENI arrive à un moment où la crise politique connaît une crispation avec l'arrestation de deux membres très influents du collectif Sauvons le Togo, le président de l'association des victimes de la torture, Assuto, le commandant Amapoko et le président du parti Mouvement des Républicains Centristes, Abbas Kabwa, qui croupissent depuis la semaine dernière, respectivement dans les prisons civiles de Mango et de Mouatien. Abbas Kabwa, quoique souffrant, a passé quelques heures à la prison civile de Lomé avant d'être transféré avec les mêmes menottés derrière à la prison civile de Mouatien. La CENI se confond à une caisse de résonance du gouvernement. Sinon, comment comprendre qu'un appel à la candidature pourrait être lancé pendant que certains acteurs politiques sont jetés en prison et d'autres interdits de quitter l'aire géographique de Lomé ou encore placés sous contrôle judiciaire? Comment pourrait-on faire une élection inclusive, transparente, équitable dans de pareilles circonstances, Amos? Autant de questions qui font dire que cette commission, elle est loin d'être une institution indépendante. Et selon des observateurs avisés, le gouvernement voudrait profiter de la complicité de la CENI pour mettre sur les carreaux l'opposition regroupée au sein du collectif Sauvons le Togo et la coalition arc-en-ciel. Ce gouvernement voyou qui a créé de toutes pièces les histoires des incendies pour mettre en prison ceux qui dérangent le pouvoir ou qui sont les potentiels candidats gênants. Il y a des raisons pour que l'opposition ne réponde pas à cet appel lancé par cette commission. Elle est tout à fait c'est une réponse politique correcte et nécessaire. Parce que le boycott à cet appel enlèvera toute crédibilité à cette escroquerie électorale et sera un moyen de traduire le mécontentement de masse à une authentique action politique. Je pense, à mon avis, sincèrement, Amos, que l'opposition a toutes les raisons. Hein. La commission n'est pas crédible. Elle n'est pas du tout crédible. Il y a ce que je dirais depuis l'accord politique global, APG. Il a été attendu que les parties prenantes devraient faire la mise en œuvre des points en suspens.
Bonjour Amos. Je m'appelle Kofi Agwe, je suis ressortissant togolais à Genève, j'habite à Genève. Je te remercie pour l'intérêt que tu m'accordes à participer à ton émission. Bon, je salue tous les auditeurs, les acteurs de la vie politique, économique, sociale du Togo et tous mes frères et sœurs togolais et africains en général. Bon, j'interviens aujourd'hui, c'est par rapport un petit peu à la situation qui se passe chez nous au Togo et qu'on connaît tous. Déjà par rapport à l'incendie du marché d'Assigamé, bon, c'est un peu, moi je trouve que ce problème d'incendie, c'est un peu stupide par rapport à ça, même si c'est en tant que stratégie politique, on peut pas aller brûler les acquis du pays, soit disons que non, que c'est par stratégie politique, on peut pas, déjà, à la base. Bon, on connaît, bien entendu, on sait les acteurs, les intervenants de ce problème-là. On va pas trop débattre là-dessus. Bon, j'ai lu tout récemment qu'ils ont arrêté Capitaine Ama et Abbas Kabwa, deux personnes influentes de la vie politique togolaise, l'opposition, que j'admire beaucoup pour leur courage et pour ce qu'ils apportent au meeting comme éclaircissement à certaines choses que peut-être que nous autres savions pas. Bien, et par rapport à ce que je peux dire sur ce sujet, nous savons très bien que tôt ou tard nous allons entendre des histoires comme ça, vu que l'opposition elle est à la merci du gouvernement et le gouvernement arrête des gens tous azimuts. Bon, ici vous savez qu'au Togo, lorsqu'il s'agit de politique, il n'y a plus rien qui nous étonne. Et ce sont les pratiques courantes du régime Nyasimbe. Je ne veux pas dire RPT, parce que RPT, ça veut dire à la base rassemblement du peuple togolais. Mais ici, c'est pas le cas. Parce que ici, ils sont en train de diviser, déjà, à la base. Le capitaine Ama. Bon. Bien entendu qu'il faisait partie du RPT à la base, ce qui fait qu'il connaît beaucoup de choses. Et Abbas Kabwa aussi connaît, les deux connaissent beaucoup de choses, et ils sont natifs de la région où est né le président de la République. En quelque sorte, c'est un petit peu gênant, moi je trouve que c'est un petit peu gênant pour le pouvoir, dans le sens où le capitaine Ama intervient sur un point stratégique au gouvernement. C'est...
Bonjour, auditeurs du canal K en Suisse. Je m'appelle Moussa Issifou. J'appelle depuis la Caroline du Nord, États-Unis. Je voudrais m'exprimer sur la situation politique du Togo et surtout par rapport au silence de la diaspora togolaise aux États-Unis et en Europe. Je pense que depuis les événements qui ont commencé en janvier, la diaspora n'a pas pu se mobiliser pour quand même à crier haut et fort et porter la voix de la détresse du peuple togolais qui souffre depuis près de 50 ans. Je pense que la diaspora togolaise doit se remobiliser afin de dire à tout le monde entier et que le système togolais est un système dictatorial, autocratique et criminel. Et c'est pourquoi CEMAF Togo, le MNG, le FRAC, USA, invitent la diaspora togolaise aux États-Unis à une manifestation très importante devant le siège de l'ONU d'ici le mois prochain. La précision sera apportée dans les tout prochains jours. Je vous remercie. Et je pense que la lutte ne doit pas être laissée aux compatriotes restés au Togo. Et je profite aussi de l'occasion pour vous lancer un appel afin que chacun de nous puisse aussi apporter un soutien aux organes de presse, que ce soit les organes de presse au Togo ou à l'étranger comme Canal K, qui font un effort considérable afin que la situation du Togo soit comprise par tout le monde. Je vous remercie.
Le TogoVie.com, Afri Presa, TogoActualité.com, partenaire de fenêtres sur l'Afrique.
Oui, et bien voilà quelques réactions des Togolais de la diaspora qui s'indignent, qui s'inquiètent de la situation qui perdure et perdue. Également à Radio Canal K, nous avons également deux compatriotes togolais, David Akpalo. Bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, merci de nous accueillir au studio. C'est toujours un plaisir de se retrouver là.
C'est moi, c'est moi. Également notre ami Dogbe Kofi depuis Bâle. Bonsoir.
Bonsoir Amos.
Merci. Alors
accueillir.
C'est moi, c'est moi. C'est bon. Donc, rapidement, vos réactions. Vous suivez l'actualité politique du Togo. Notre correspondant Fabi Kouassi et on a reçu également Agbéomé Kodjo. Alors, tout de suite, votre réaction comme d'autres compatriotes de Gbekoufi.
C'est avec indignation que nous avons appris l'arrestation du commandant Ama et puis du président du mouvement MDR, Abbas Kabwa. C'est avec indignation parce que jusqu'à présent, nous ne savions pas ce qu'ils ont vraiment fait parce que le régime en place continue à arrêter les gens pour rien, pour un oui et un non. Et ça continue depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Et en rajoutant par l'embastillement des politiciens, et puis ça continue, et puis ça retombera sur les journalistes. Où va le pays? Dans quel sens le régime en place veut diriger le pays? Les acquis obtenus depuis 90 avec les sacrifices humains qu'il y a eu, il veut nous reculer en arrière. Comme dans les années 90, 70, 80. Non, si nous nous indignons pas, nous allons nous reculer. Togolais de la diaspora que je connais, restons-nous mobilisés.
Justement. C'est ça la mobilisation qui peut quand même être un levier de combattant, je pense, David Apalo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je pense que la mobilisation se situe à deux niveaux. On peut mobiliser des ressources humaines, mais on peut aussi mobiliser des ressources financières ou matérielles pour essayer de mener la lutte contre cette démagogie, cet arbitraire que nous connaissons depuis déjà très très trop longtemps même. Je crois que c'est le lieu vraiment de non seulement parler de notre indignation, mais poser des actes concrets qui vont dans le sens de faire appel aux uns et aux autres.
En quoi faisant David Apalo?
Il serait recommandable que nous faisons appel à tous les habitants, les ressortissants du Togo qui sont dans la diaspora, qui sont soit en Europe ou en Amérique, pour qu'ils mettent ensemble leur savoir et leur savoir-faire au service de la lutte contre ce régime despotique.
Voilà. Exactement. Nous avons également deux compatriotes depuis l'Angleterre et depuis Hollande également, et docteur Edematou Kouassi, il est conseiller spécial chargé de la stratégie politique et de relations diplomatiques de OBU et coordinateur international provisoire du CVU, également membre du collectif Souvenons-nous Togo. Bonsoir, docteur Atou Kouassi Edem.
Bonsoir Sylvain et merci pour l'opportunité à nous offerte d'échanger une fois de plus sur
merci.
La situation de notre pays. Et bonsoir aux amis qui sont en studio avec vous.
Également depuis la Hollande, nous avons Gaëtan Bati Zoumaro. Il est le coordinateur du CRITD, Cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique. Bonsoir Gaëtan Bati.
Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les auditeurs, aussi bien au Togo, dans la diaspora que dans le monde entier.
Exactement. Alors, il y a un problème actuellement. Le Togo va très très mal. Il y a le problème de l'armée qui s'est posée, l'armée qui a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir. Le commandant Olivier Ama a s'est fait lancer un appel à un sursaut patriotique à l'armée. Alors rapidement, il était arrêté pour ses opinions et gardé actuellement en prison à Mango. Alors rapidement, docteur Atou Kouassi Edem, quelle est votre lecture de la situation face à cet état de fait? Estimez-vous que c'est un appel à la violence ou à la révolte?
Tout d'abord, avant de répondre à cette question, j'ai une pensée particulière à mon ami Olivier, un homme qui croit en Dieu, et je sais que en ce moment difficile, sa foi dans cette épreuve va encore grandir et il en sortira pour la gloire de Dieu. revenons-en à votre question. Je pense que nous avons sans doute atteint le summum de l'arbitraire au Togo, car le commandant Hama n'a exprimé qu'une opinion et son arrestation constitue une violation des droits de l'homme, notamment du droit à la libre expression de ses pensées contenues dans la loi fondamentale de notre pays. La loi fondamentale de notre pays stipule que l'armée doit être républicaine et donc ne devrait pas s'ingérer dans le cours normal de la vie politique. Or, actuellement, le cours de la vie politique nationale est loin d'être normal. Et donc, c'est du devoir de l'armée de veiller à l'équilibre national, c'est-à-dire à la préservation de la paix civile et de la stabilité de la nation. Malheureusement, que constatons-nous actuellement, c'est que l'armée obéit à l'œil de fort Gnassingbé au mépris de la Constitution. Et pire, l'institution judiciaire est instrumentalisée. C'est ça qui a amené notre compagnon de lutte, Olivier Hama, à faire cet appel au sursaut républicain de l'armée. Quand même, comment pouvez-vous interpréter le fait, Sylvain, et il faut que les Togolais sachent quand même cette histoire. C'est que avant même que le commandant Olivier Hama ne soit arrêté, le conseil diplomatique de M. Faure Gnassingbé, Kofi et Sao est allé voir le prophète Esaïe, que vous avez reçu sur votre antenne, pour lui demander que doit faire le gouvernement. Ce dernier a expliqué à M. Sao Kofi ce dont il s'agit dans ce qui se joue au Togo, et qu'il fallait à tout prix œuvrer dans le sens de l'apaisement et du rassemblement des forces du pays. Olivier Hama n'a pas dit quelque chose d'autre que ça. Peut-être parce qu'il n'est pas prophète et qu'il est cabié de Pia à Kei, qu'on l'arrête. Je pense personnellement que à voir ce qui s'est passé avec Olivier Hama. Et quand on sait que vendredi 7 juin 2013, le ministre Tchao Tchalim, ministre de la Justice, est dépêché à Paris pour organiser une conférence de presse et supplier les Français à accorder encore un minimum de confiance à une justice.
Justement, je vous arrête sur tout là. Cette conférence de presse n'a pas eu lieu. On vient de l'apprendre. J'ai moi-même contacté nos compatriotes depuis la France. Cette conférence de presse que le ministre Tchalim va organiser serait reportée sur vendredi prochain. Et ça, c'est pour votre information également pour nos auditeurs. Nous allons quand même suivre cela de près et quand même informer nos auditeurs après de cette conférence qu'il va organiser en France vendredi prochain. Alors, nous allons demander l'avis également de notre invité également, Gbati Zoumaro depuis Hollande, par rapport à l'arrestation du commandant Olivier Hama. Gbati Zoumaro.
Oui, merci de me donner la parole. Je remercie notre frère, le docteur Atou, pour son intervention. Il nous a éclairé sur pas mal de points. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ce que moi j'ai à dire, c'est que l'arrestation du commandant Olivier Hama, aussi bien que l'arrestation d'ailleurs d'Abbas Kabwa, ces deux arrestations traduisent un état de fébrilité de la part du pouvoir. Je considère que ce pouvoir illégitime, d'ailleurs il le sait très bien, et il a toujours vécu en s'appuyant sur l'armée, d'une part, et sur ce qu'il considère être comme son fief, c'est-à-dire la région septentrionale du pays. Alors, à chaque fois qu'il se sent menacé, il a tendance à retomber presque automatiquement dans ses vieilles habitudes, à se replier sur lui-même. Et donc à se replier sur l'armée et la région nord du Togo. Or, il se trouve que aussi bien Abbas Kabwa que Olivier Hama sont des fils de cette région-là,
Et pire encore, pour le pouvoir, Olivier Avan est, est un militaire, est un gendarme. Bon, ben, il leur fallait à tout prix les mettre hors d'état de nuire, tout simplement. Et bon, ben, ils ont trouvé le premier argument qui leur tombait sur la main pour faire leur sale besogne. Sinon, si on examine de près les faits qui, en particulier, sont reprochés à Olivier Ama, on lui reproche d'avoir appelé ses anciens frères d'armes, étant militaire lui-même, d'avoir appelé ses anciens frères d'armes à demander au chef de l'État de prendre contact avec avec l'opposition pour un dialogue. Si aujourd'hui on peut arrêter au Togo quelqu'un qui appelle à un dialogue entre les principaux leaders de politiques du pays, c'est qu'on ne sait plus où on va. Le Togo se retrouve dans un état où on ne peut plus parler d'état de droit, on ne peut plus parler de droit du tout. Et c'est ça qui amène aujourd'hui nos compatriotes dans les geôles du pouvoir.
Merci. Guétin Gbati Zoumaro, je reviens également sur le second aspect du problème, l'arrestation de Abbas Kabwa. Le peuple togolais attend toujours la publication du rapport des incendies des marchés. Alors Étienne Yakanou, si on peut pas l'oublier, il n'est pas encore, on l'a pas encore même enterré. Étienne Yakanou, un militant de l'ANC, gardé en détention dans cette affaire, est décédé. Alors Abbas Kabwa est également inculpé, se retrouve aussi en détention, en prison à Notchin. Finalement, beaucoup de Togolais se posent la question et pensent que on ne connaîtra jamais la vérité sur cette affaire descendue des marchés, docteur Edema Achoukwasi.
Concernant l'établissement de la vérité sur cette affaire descendue des marchés que nous appelons la crise du feu de cette année 2013 au Togo, la vérité est connue du peuple qui attend que confirmation. Je m'en vais m'expliquer. Et tout d'abord, il faut noter que le 3 juin dernier, le ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, répondait au courrier du 30 avril 2013 du collectif de solidarité avec les luttes sociales et politiques en Afrique, lui demandant la publication du rapport des experts français dans l'affaire des incendies. Monsieur Fabius, dans sa réponse, fait remarquer que la France attend de la commission d'enquête qu'elle rende ses conclusions dans le respect du droit et qu'elle suit avec attention l'évolution de la situation au Togo. C'est dire que le dossier de la crise du feu est aujourd'hui une grosse arête dans la gorge du pouvoir, car il est confronté à une double pression, tant en interne qu'en externe. Son désir de faux fuyant ne peut pas trouver de solution facile, parce que au niveau extérieur, lui-même ayant fait appel à une république française où le droit est au moins respecté, il est clair que ces autorités, sous la contrainte de leurs concitoyens, ne peuvent que demander que ce qui a été transmis au pouvoir de Lomé soit porté à la connaissance du public. Maintenant, au niveau interne, il faut dire que les Togolais, bien avant les dernières sorties de l'accusateur principal, M. Mohamed Noum, qui a quand même impliqué M. Faure Gnassingbé, qui est censé être le premier responsable de la République dans cette affaire, ce qui n'est pas anodin, qui est très, très, très grave. Les Togolais, eux, savaient, dès le lendemain du 12 juin, c'est-à-dire le samedi 12 juin, les Togolais savaient, de par l'intervention de nos frères du Ghana, que le combustible qui a entraîné cette puissance de feu était le kérosène. Déjà, le 12, les Togolais étaient au courant de cette information. Ensuite, la
La majorité des Loméens et des Togolais qui ont appris que les sapeurs-pompiers ghanéens ont été bloqués à Flao pour des formalités et d'entrée sur notre territoire, se sont légitimement et justement posé la question que demain, si notre maison brûlée, on fait appel à des gens pour venir l'éteindre, on les arrête, c'est que nous-mêmes, nous savons pourquoi notre maison brûle et pourquoi nous ne voulons pas qu'on vienne l'éteindre.
Justement, justement.
Il y a ce point aussi, que l'opinion était au clair là-dessus.
Merci.
Maintenant, en dehors de ça,
docteur,
il y avait aussi les zones d'ombre sur l'absence ou présence des vigiles du marché, sur ce retard de nos forces, alors qu'il y avait des éléments de gendarmerie et autres, tout près du marché intervenus. Donc, au sein de l'opinion nationale, hein, c'était clair que c'est un secret de polichinelle.
Merci, exactement.
Hein. Il y a ensuite un autre élément quand même. La Ligue du continent est venue vendre la mèche que les experts français, leur conclusion, hein, mentionnait clairement le kérosène comme le combustible qui était à la base de ces incendies. Donc en clair, c'est pour dire que au-delà de ça, il y a un autre élément que les gens savent et sur lequel je vais insister, c'est le projet cocotier. Ce projet immobilier qui doit voir la mise en place d'un grand centre commercial, tout ça là, dans la zone du grand marché et autres là. Bon nombre de Togolais le savaient. Les services secrets étrangers aussi le savaient. Donc, aujourd'hui, tout ce que fait le pouvoir, jusqu'à ce qu'on envoie Tchao en France, c'est un peu un jeu ridicule pour la plupart des Togolais.
Merci. Merci. Nous allons également demander l'avis de Gaëtan Batizoumaro, qui est le coordinateur de CRID, Cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique, en direct depuis la Hollande. Gaëtan Batizoumaro, quelle est votre réaction, votre lecture de la situation sur cette affaire d'incendie des marchés qui ne finit jamais au Togo, hein, Gaëtan Batizoumaro?
Permettez-moi avant tout de rendre hommage à la mémoire de notre camarade Étienne Canon, qui malheureusement a perdu la vie dans cette histoire. Et j'ai une pensée particulière aussi pour les femmes du marché, des deux marchés d'ailleurs, du marché de aussi bien celui de Lomé que du marché de Kara. Qui ont tout perdu, littéralement, qui sont ruinés, qui ne savent plus à quel sein se vouer, et qui sont laissés pour compte, qui sont laissés à l'abandon. Juste au lendemain de ces incendies, le gouvernement s'est précipité sur les leaders de l'opposition, avant même d'avoir mené de sérieuses enquêtes, a commencé à faire des arrestations, à inculper les principaux leaders de l'opposition togolaise. Et ce n'est qu'après, et d'ailleurs sur insistance de l'opposition, qu'il a concédé faire appel à des experts pour une enquête internationale un peu plus sérieuse. Vous nous demandez ce que nous inspire la non-publication du rapport d'enquête des experts français. Eh bien, moi, en tout état de cause, et je crois la plupart des Togolais avec moi, nous ne sommes pas étonnés que le gouvernement n'ait pas publié le rapport d'enquête jusqu'à présent. Nous ne sommes pas étonnés parce que ce n'est pas la première fois que des enquêtes, des rapports d'enquête sont mis sous le boisseau par ce gouvernement-ci. On se rappelle le rapport d'enquête de la CNDH que le gouvernement lui-même avait commandé, qui lui était défavorable. Eh bien, ce rapport, avant publication, avait été falsifié. On se souvient tous que le président de la Commission des droits de l'homme a dû prendre la poudre d'escampette pour ne pas risquer de finir en tôle comme nos compatriotes aujourd'hui. Donc, les Togolais sont comme chats échaudés, ils craignent l'eau froide, et le silence actuelle qu'on observe autour du rapport d'enquête des incendies des marchés ne nous dit rien de bon. Je voudrais dire qu'au lieu de chercher à tout prix à politiser cette affaire, si le gouvernement savait réellement qu'il n'avait rien à voir avec, dans cette histoire d'incendie, non seulement on aurait mené des enquêtes sérieuses, on aurait publié les résultats de ces enquêtes-là, et aujourd'hui, on serait en train de s'occuper un peu plus sérieusement des véritables victimes de ces incendies, c'est-à-dire de des femmes des marchés et de la population togolaise. Et donc, j'en appelle à mes compatriotes, au peuple, aussi bien au pays qu'ici, dans la diaspora, pour continuer la pression sur le gouvernement afin que les véritables auteurs de ces attentats-là soient identifiés et jugés en bonne et due forme.
Selon la loi. Merci beaucoup, monsieur Edem Atou Kouassi. Je le disais, il est conseiller spécial chargé de la communication politique et des relations diplomatiques de OBU, coordonnateur international provisoire du CVU, membre du collectif Sauvons le Togo également. Et depuis Hollande, Gaëtan Zoumarou Bati, coordinateur de CRITD, un cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique. Malheureusement, le temps est malheureusement contre nous, le temps nous pourchasse. Nous allons quand même continuer la deuxième partie dans notre langue vernaculaire, un des langues vernaculaires du Togo, le Mina, et puisque moi-même je la parle très bien, donc je suis quand même très content de faire cette émission aussi en Mina, quand même pour éclairer aussi les lanternes de nos compatriotes au pays, même ici. Donc malheureusement, on va revenir plus tard sur les élections législatives au Togo, et qui sont aussi quand même qui inquiètent quand même beaucoup de Togolais à la diaspora. Merci et de nous avoir accompagnés et depuis chez vous. Bonsoir.
Si, bonsoir.
Eh bien, retour au studio avec nos invités rapidement. Vous avez une minute pour réagir. Et là, il y a déjà ce problème-là. Le problème du Togo, c'est l'armée. On le disait, il y a beaucoup qui le disent. Olivier, commandant Olivier Amar l'a dit. Alors, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? David Apalo.
En ce qui concerne la mobilisation, j'aurais juste une proposition à faire, c'est que on pourrait éventuellement faire une meilleure utilisation des nouvelles technologies de l'information et en mobilisant le maximum de personnes possibles autour de ces questions-là. On pourrait faire des conférences débats, on pourrait faire des concerts de soutien, des journées de joutes sportives sponsorisées, des repas de soutien. Il y a tellement de choses à faire ensemble pour réunir des fonds, réunir des gens autour d'un projet commun.
Et là, vous êtes prêt à organiser cela?
Bien sûr. Mm-hmm. Alors, si j'en parle, c'est que j'ai une petite expérience là-dedans. Ce que je proposerais aussi, c'est ou je recommanderais à la diaspora, c'est surtout d'expérimenter ce qu'on appelle le pouvoir de la confiance. Expérimenter le pouvoir de la confiance, c'est mon leitmotiv. Sans cela, nous ne sommes capables absolument de rien faire. On doit pouvoir expérimenter le pouvoir de la confiance.
En bref, je pense que vous demandez une remobilisation de la diaspora togolaise qui ne doit pas quand même baisser les bras devant cette situation. Rapidement, Dogbe, Kofi, vous avez aussi une minute. Hein?
Oui. Nous devons suivre l'exemple de la coalition Akanciel et puis STT et CST qui sont unis et nous devons rester mobilisés derrière eux pour qu'ils continuent la lutte parce que ça devient de plus en plus grave.
Exactement, on parle de mobilisation. La mobilisation, elle affaiblit, hein, surtout au niveau de la diaspora. Et alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit fait concrètement pour remobiliser, je parle de remobilisation de la diaspora togolaise.
Oui, les responsables de chaque ville, qu'ils arrivent à expliquer à nos compatriotes vraiment ce qui se passe, ce qui se fait vraiment réellement sur le terrain. Comme l'a dit mon grand frère, organiser les soirées débats, soit organiser des trucs sportifs, qu'on se voit et qu'on se reprenne confiance, parce qu'on nous connaissons depuis des années.
Merci. On va quand même, je ne t'ai pas coupé, c'est le temps qui est malheureusement contre nous. Et voilà, toute première partie de cette émission, on va continuer en minant. Merci d'avoir participé à cette émission. Dans quelques instants, la deuxième partie.
Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.